directeur général du constructeur automobile français.
N'essayez pas de régler le volume de votre récepteur.
Le parking de nuit, une heure de stationnement littéraire et musical pour lecteurs à grandes oreilles, croqueurs de bons disques et mélancoliques à moteur.
Vous saviez où vous alliez ?
La région est grande et je cherchais un endroit calme pour me reposer.
Un espace réservé aux voitures propres, aux vélos jaunes et aux planches à repasser. Un endroit bien au frais, là où se loge la tendresse de l'innocent et l'impertinence du fou.
Parking de nuit, vendredi, 21h-22h, France Inter.
France Inter, la différence.
Il est 15h04, on retrouve Daniel Mermet pour la Bastille, j'y suis.
Merci Daniel Mermet de nous avoir permis d'écouter une fois de plus la voix si chaleureuse de Daniel Ben Saïd. C'était un homme lumineux. Ses écrits nombreux, qu'il s'agisse de philosophie, de politique, et même de Jeanne d'Arc avec son si émouvant Jeanne de Guerlas, sont chargés d'humanité, d'optimisme, d'espoir en l'avenir. Tout cela avec une belle écriture pleine de poésie et d'humour qui laisse transparente sa grande sensibilité. Je crois qu'on s'enrichit en les lisant, en tout cas c'est l'héritage qu'il nous laisse et je pense qu'il faut vraiment qu'on l'utilise vraiment sans modération. Et puis voilà, on est triste nous aussi. René de la Martinique.
Oui, bonjour, je téléphone pour réagir au décès de Daniel Ben Saïd. Voilà, il se trouve que je fais partie des milliers de personnes qui ont rencontré, comme ça, d'anonymes, qui ont rencontré un jour ou l'autre Daniel Ben Saïd dans un meeting ou dans une réunion. Et nous, on était 4 ou 5 Vosgiens, on était allés au forum social à Saint-Denis il y a quelques années. Et on s'était dit, voilà, Ben Saïd, prof de fac, tout ça, ça va nous gonfler, on va rien comprendre de ce qu'il raconte. Et on avait été l'écouter, on était ressortis tous sur le cul, tellement il était clair et c'était impressionnant ce type, la clarté, la chaleur du personnage. Donc on est tous très émus par son décès. Et c'est, voilà, on remercie Daniel Mermet de passer des émissions qu'il est en train de passer. Merci, au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe. René de Montpellier. Dis-moi Daniel, un peu réducteur tes collègues de l'information dans la présentation de Daniel Ben Saïd. Moi, j'ai appris à le connaître et à l'apprécier lors de vos discussions dans ton émission. Et je ne crois pas me tromper en pensant que la gauche française vient de perdre l'un de ses meilleurs représentants.
À propos de Ben Saïd, il y a 2 choses que je voudrais dire. Tu sais que c'est toi qui me l'as fait découvrir ? Eh oui, Daniel, nous n'avons pas du tout la même formation militante. Et il m'a immédiatement enthousiasmé pour une raison très précise. Parce que, et je crois que je te l'ai dit d'ailleurs à l'époque, c'est un authentique intellectuel d'une honnêteté et d'une lucidité que l'on rencontre rarement de nos jours et qui fait les grands intellectuels. Et alors ça m'amuse quand je pense à tous ces gens bien pensants, hein, comme on dit, c'est-à-dire mal pensants, qui accusent les penseurs de sensibilité communiste d'être aveuglés par leur idéologie, alors qu'eux-mêmes, ceux qui portent cette accusation, véhiculent les pires clichés de l'idéologie dominante, qui, bien qu'elle avance camouflée, n'en est pas moins une idéologie, et la pire de toutes. Alors sa lucidité, elle se manifeste là, dans l'émission que tu as repassée aujourd'hui, lorsqu'il parle qu'il faut éviter de mythifier le prolétaire héroïque. Tous ces gens sont contrastés, capables du meilleur et du pire. Quand il dit aussi qu'il a hésité à prendre une carte, parce que prendre une carte d'un parti, c'est aliéner sa liberté. On est toujours un art, pour le meilleur et pour le pire, ce qui est très bien vu. Quand il a parlé des aspirations de sa mère à sa promotion sociale, son analyse de mai 68, enfin ça, pour moi, c'est chaque fois un délice de l'écouter. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis frappé du décalage édifiant entre l'hommage rendu à Philippe Séguin par la presse, la télévision, toutes les institutions, qui était peut-être un brave homme, mais qui n'a absolument rien apporté de nouveau à la pensée politique de son temps. Décalage avec le silence probable dont les mêmes supports d'information vont entourer la mort de Daniel Ben Saïd, à part toi bien sûr. Mais pour moi, il va sans dire, mais je le dis quand même, que le rayonnement de la pensée politique de Ben Saïd est sans commune mesure avec celui de tous nos politiciens, et que dans une société qui saurait reconnaître ce que penser veut dire, c'est à Ben Saïd et non à Séguin que devrait être réservé un hommage national. Parce que lui éclaire vraiment les esprits.
Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe. Je souhaitais tout d'abord faire part de ma tristesse suite au décès de Daniel Ben Saïd. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup de choses à dire. Et quand je pense qu'Alain Minc est toujours en pleine forme, je trouve ça un petit peu injuste. Mais à l'origine, j'appelais pour un autre sujet. Et là, je m'adresse aux auditeurs lyonnais qui se sentent concernés par les OGM et par le nucléaire. Demain, jeudi 14 janvier à 19h30, à l'École normale supérieure de Lyon, aura lieu une réunion publique organisée par le gouvernement sur le thème des nanotechnologies. Les nanotechnologies, c'est un domaine en pleine expansion, hein, qui intéresse énormément les industriels, les militaires, les politiques. Donc, on veut nous en vendre. Et on fait promettre, pour ce faire, à peu près tout et n'importe quoi à ces nouvelles techniques. On va inventer tout un tas de produits magiques qui vont nous faciliter la vie, on va guérir tout le monde, etc., etc. Le tout, en plus, sous un vernis de développement durable. Le problème pour les décideurs actuellement, c'est qu'ils redoutent que les nanotechnologies ne soient rejetées comme l'ont été les OGM par l'opinion publique il y a une dizaine d'années. Ben oui, parce que les nanotechnologies, en fait, ça pose quand même pas mal de problèmes environnementaux et politiques vraiment, vraiment fondamentaux. Donc la stratégie du gouvernement actuellement est d'organiser une grande campagne de communication dans toute la France pour tenter de rassurer le citoyen et pour tenter de lui faire croire que son avis sera pris en compte. Bon, évidemment, c'est faux, hein, puisque toutes les décisions dans le domaine des nanotechnologies sont déjà prises depuis plus de 10 ans, et il s'en prend tous les jours. Donc le but de ces faux débats est surtout de nous faire accepter l'avenir technologique que les décideurs nous préparent. À Lyon, donc, il y aura un de ces débats demain, jeudi, à 19h30 à l'ENS, et j'invite tous les gens qui n'aiment pas se faire prendre pour des truffes à venir manifester leur mécontentement.
Merci pour ces messages, chers AMG, actionnaires modestes et géniaux, et beaucoup, vous avez entendu, vous l'avez compris, de messages concernant Daniel Ben Saïd, dont on a appris la mort hier. On a rendu hommage à ce philosophe, penseur engagé, hier, dans une première partie d'un entretien que nous avions fait avec lui en 2004, autour d'un livre qu'il publiait à l'époque, Une lente impatience, où il retraçait son parcours, son enfance à Toulouse, le petit juif toulousain, sa mère qui tenait un bistrot, son père qui faisait de la boxe, un bistrot où bien souvent on fredonnait l'International et le Temps des Cerises, comment il est venu à la vie politique, comment il a été séduit par le Parti communiste, comment il en a été déçu. Et là, on va aller vers la deuxième partie de cet entretien à partir de 1968, jusqu'à l'époque où nous avions parlé, c'est-à-dire à l'époque 2004. Mais c'est évidemment important tout cela, le parcours d'un homme, d'une génération, d'un homme engagé. Mais ce qui se dit dans les saluts qui sont faits à Daniel Ben Saïd, c'est une époque révolue, c'est une page qui se tourne, ou bien Télérama qui dit « Daniel Ben Saïd, une pensée s'éteint ». Alors un penseur sans doute, mais certainement pas une pensée, et on reviendra sur une intervention publique récente de Ben Saïd, de Daniel Ben Saïd, en 2008, où il s'adressait à des jeunes gens, parce que s'il y a une chose évidemment qui serait l'équivalent d'aller cracher sur sa tombe, ce serait de dire que cette pensée s'éteint. Voilà l'heure que nous allons passer ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut les auditeurs modestes et géniaux de l'Isère. Le prochain rendez-vous du repère de la base si j'y suis aura lieu vendredi 15 janvier au Sabot des Muses, à Saint-Bernard-du-Touvet. Nous vous attendons.
Repéré de Nantes, debout. En mai 2008, nous faisions un premier repère sur les sans-papiers. Depuis, la situation a évolué. Non, elle s'est encore dégradée. 29 000 expulsions cette année à l'actif de Besson. 5 000 travailleurs sans-papiers en grève à Paris. Alors au prochain repère, on remet ça. Les sans-papiers, les luttes, l'instrumentalisation politique de la peur, la solidarité et sa criminalisation, les faits. C'est vendredi prochain, 15 janvier, 19h19, au Méliès, à vendredi.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Merci de la rediffusion de l'émission sur Daniel Ben Saïd. La dernière fois que moi je l'avais rencontré, c'est une manif du 1er mai où on parlait déjà de la défense de la sécurité sociale en 2003. Voilà, j'étais très émue de l'écouter. Claudine de Saint-Herblain, merci encore et bonne continuation de vos émissions.
Salut les AMG, aujourd'hui mercredi 13 janvier, les AMG de Nancy et ses environs se rejoignent au bar Le Royal rue Mont-Désert à 19h30 avec pour thème Gaza un an après. A tout à l'heure.
Salut Daniel, c'est François. Bah écoute, voilà, on est devant le palais de justice à Amiens. Il y a Xavier Mathieu qui vient de prendre la parole, qui a noté encore une fois l'absence des dirigeants des syndicats. En revanche, bah, il y a du monde. C'est clair que le grand bond en avant là va partir d'Amiens. Salut Daniel et de Picardie. Ciao.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Daniel Ben Saïd. Le devenir n'est pas réductible à la fatalité.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, je le disais hier avec Daniel Ben Saïd, on l'a retrouvé dans cet entretien que nous avions eu en 2004, où il retraçait sa vie, sa formation, son initiation, son itinéraire personnel et politique. Après le désastre du stalinisme, jusqu'au bout, il a dénoncé le stalinisme. Et puis, comment il a revu sans cesse, réinterprété, revisité sans cesse la pensée de Marx au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure des événements, jusqu'à des entretiens récents que nous avons eus avec lui au printemps dernier, vous vous en souvenez. Une pensée s'éteint, dit Télérama d'une façon très très maladroite. Le penseur s'est éteint, c'est sûr, mais sa pensée se prolonge, au moins parce qu'elle s'inscrit dans la durée, elle s'inscrit dans l'histoire, elle se projette dans l'avenir. Ben Saïd a eu vraiment la volonté de passer, d'être un passeur, c'était un pédagogue, il enseignait, vous le savez, à Paris 8, mais aussi il était très présent dans des quantités de meetings pour expliquer, pour réexpliquer encore et encore ce qu'il croyait entre la pensée et l'action. Beaucoup de livres, il a écrit beaucoup de bouquins, sa culture était très très vaste et s'étendait, un éditeur disait mais pourquoi il aimait tellement Peggy ? Mais il aimait Peggy comme il aimait Bernanos, où il s'était intéressé à Jeanne d'Arc ou au Talmud. C'était un intellectuel qui n'était pas un simple militant, un apparatchik dogmatique comme ça, c'était quelqu'un qui avait une vaste, un vaste champ d'occupation, de curiosité et d'humour. Bref, un intellectuel tout court. Pourquoi vous faire entendre ça avec tellement d'insistance ? C'est qu'on a de quoi être inquiet quand on voit la pauvreté, l'appauvrissement extraordinaire du paysage intellectuel français, du paysage des idées. On a évoqué récemment Albert Camus. J'ai connu cette époque, c'était ma jeunesse. Les conflits étaient extrêmement vifs. Notre vie en dépendait de ce qu'avait dit Camus. On était d'accord, pas d'accord. Ce qu'avait dit Sartre, est-ce que vraiment il a dit ça ? Mais non, c'est impossible. Toute chose qui était quand même d'un niveau assez élevé. Enfin, les idées étaient prêtes. Et on a aujourd'hui un appauvrissement extraordinaire. En se marrant, un auditeur disait « Qu'est-ce que vous avez à pleurer, Ben Saïd, puisqu'il nous reste BHL ?» Oui, il nous reste aussi à la main, vous nous direz. Voilà, c'est contre cet appauvrissement que je vous propose de passer cette heure avec Ben Saïd, en se disant que les idées, c'est une guerre aussi. Il y a une lutte de classe et il y a une guerre des idées. S'il n'y a pas de guerre des idées, il n'y a pas de lutte de classe. Or, cette guerre des idées, elle existe, il faut la livrer le plus loyalement possible, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce que Ben Saïd a livré avec énormément de loyauté. D'ailleurs, il est salué au moins pour ça, par ses pires détracteurs qui ne désarment pas, selon quoi ils n'ont pas tort, parce qu'il y a une certaine noblesse là-dedans, une noblesse peut-être un peu oublié et dont il était indéniablement porteur. Donc, hier, nous avons évoqué cette première partie de son existence, et puis évidemment 68. 68, à quoi il est identifié, alors qu'il prenait des distances avec ce mouvement, disant oui, enfin c'était un moment important sans doute, mais pas capital dans nos vies, et bien évidemment que pour le jeune homme qu'il était, jeune étudiant qu'il était à l'époque, il y a eu ce rapprochement impossible, ce rendez-vous manqué entre les étudiants et la classe ouvrière.
Sur le front des étudiants, Jacques Sauvageot tente à la fois de détourner le mouvement de la violence et d'en accroître l'efficacité en multipliant les contacts avec les ouvriers. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante.
Il y avait bel et bien deux mondes, il y avait bel et bien ce monde étudiant, issu plutôt, à ton exception et quelques exceptions, plutôt de la classe moyenne, des classes moyennes, et par ailleurs... Il y a eu un autre mai 68 qui était celui de la classe ouvrière.
Comme c'est le titre d'un bouquin de Segui qui a essayé d'opposer les deux. Mais bien sûr, il y avait ces deux impulsions, disons, socialement assez différentes. Encore que, justement, la misère en milieu étudiant, le milieu étudiant était en train de changer. C'est aussi ça, la sociologie. Et ça se vérifiait pas seulement en France, mais dans les pays environnants, en Italie, aux États-Unis, le phénomène des campus, etc. La singularité française là-dedans, c'est la manière dont le Parti communiste et la CGT, qui avaient à l'époque une hégémonie incontestable sur notamment le mouvement ouvrier industriel, sur les grandes usines de l'automobile, de la sidérurgie, de la construction navale, comment... Là, ils ont délibérément érigé une barrière ou une frontière, y compris d'ailleurs en cultivant une méfiance envers ces étudiants qui sont des petits bourgeois, qui finiront...
La fameuse chanson de ce pauvre Ferrat, pauvre petit
pauvre,
con.
Pauvre petit con que j'ai... Bon, amnistie pour Ferrat, mais à l'époque, c'était difficile à digérer. Donc, il y a eu cette espèce de barrière de méfiance. Il y a un film là-dessus formidable, de Sous les murs de Citroën, où on voit ces malheureux étudiants dont nous sommes s'adresser aux ouvriers juchés sur le mur. Non, mais la grève générale, on peut chasser De Gaulle, etc. Et des visages absolument fermés au-dessus. Non, mais c'est deux mondes qui n'ont pas pu... communiquer. Je dis c'est une particularité française parce que en Italie ça a été très différent, c'est-à-dire que aussi bien pour le type de parti communiste, mais il y a eu une sorte de porosité, d'échange assez spontané. Bon, là on a eu une espèce de mur
pour... Alors celui qui a essayé aussi, c'était Sartre sur son bidon à Billancourt, là l'image est restée.
Alors ça, c'était Sartre à l'époque flirté avec les Mao et avec et notamment, d'ailleurs, avec ce qui n'est pas son directeur de conscience, Benny Lévy, à l'époque, dit Victor. Oui, mais alors ça, c'est une figure récurrente, finalement, de l'intellectuel en France, qui ne me paraît pas dérisoire, par ailleurs, au contraire, mais oui, c'était le philosophe perché sur son tonneau, parler sous les murs de Billancourt, et puis, des années plus tard, en 95, Bourdieu, à la gare de Lyon, etc. Alors, ça marque à la fois un mouvement de grandes figures intellectuelles vers le mouvement ouvrier, et en même temps, le fait que l'accueil qui leur était réservé, pas pour Bourdieu, parce qu'on est déjà sorti de cette période-là, était les intellectuels, oui, mais toujours suspect d'une possible trahison sociale. La grande figure qui exprime cette hantise...
Suspicion fondée.
Malheureusement, certains l'ont confirmé, mais la grande figure littéraire qui vit dans la hantise de la trahison, c'est Nizan. C'est les romans de Nizan, La Conspiration, Antoine Bloyer. Il est complètement hanté par cette menace de trahison de classe, à l'époque, on aurait dit. Bon, et évidemment, là je le prends y compris comme cas personnel, autant j'ai quitté sans regret le Parti communiste où j'en ai été exclu sans regret, mais ce qui me peinait, c'était aux yeux de ces ouvriers du comptoir, le fait de passer pour, ça y est, hein, le fils machin fait des études, il passe de l'autre côté.
Il est fier.
Oui, il devient fier. Bon, ça c'était quelque chose de douloureux. Mais l'accueil fait aux intellectuels était toujours un accueil en suspicion et les mettant en situation de devoir faire en permanence leur preuve de fidélité. D'où cette position assez ambiguë des intellectuels communistes, dont le prototype est Aragon, dont un auteur qui m'est cher, Dionys Mascolo, disait que finalement il était resté un sympathisant de l'intérieur, mais sans cesse tenu de prouver tout. Enfin, c'est un texte un peu connu, mais cette brochure impitoyable sur Aragon de Jean Malaquais, qui est Aragon ou l'intelligence servile, mais c'est vrai qu'il a servi bien des causes, les meilleures et les pires.
Mais c'est bon. Un mot qui revient souvent sous ta plume, ça, quand on lit tes papiers, tes intelligence servile. Ça, c'est une hantise que tu as.
Ah oui, oui, bah, quelle que soit d'ailleurs la servilité, mais qu'on mette ses idées à la disposition d'une autorité ou d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit aujourd'hui dans le cas de l'ancien disciple de Foucault qui est devenu l'idéologue organique du MEDEF, ou que ce soit d'ailleurs une soumission à l'orthodoxie du parti. Je crois que... Alors, si on a réussi, si on a réussi quelque chose, c'est pas du tout d'avoir créé un grand parti. Bon, on a essayé de faire de notre mieux, mais je crois que ça, c'est quelque chose d'important, pas de visible, d'avoir réussi à créer un mouvement, une organisation politique dans lequel il y a bien des affinités, mais il n'y a pas une orthodoxie de pensée. On n'a jamais d'ailleurs été sartrien contre althusser, althussérien contre Lefebvre, etc. Peut-être éclectique, mais tout ça faisait partie d'un patrimoine, d'un paysage. Finalement, c'est le terme que j'emploie dans l'introduction du bouquin. Mais c'est un paysage de pensée qui reste assez divers et je crois qu'il n'est pas quelque chose de personnel. Une culture d'un certain pluralisme... qui en même temps n'est pas incompatible avec un engagement énergique. Hein. Ça, c'est un peu mon défi. Est-ce qu'une politique profane ou laïque est possible ? Ça se traduit par est-ce qu'il est possible de s'engager à fond, de mettre une énergie absolue à partir de convictions ou de certitudes relatives ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir raison, mais pourtant, bon, la politique est un combat, il faut y aller, quoi.
Alain Krivine a confirmé aux journalistes qu'il se présentait, à moins que les partis révolutionnaires n'arrivent à se mettre d'accord sur un candidat commun. Pour sa part, Alain Krivine verrait très bien comme candidat Charles Piaget, le représentant CFDT de l'IP, qui a été à la pointe de l'actualité durant tout le conflit à Besançon. Alain Krivine au micro de Suzanne Gauthier.
La raison, je crois, en est fort simple, c'est que si effectivement aujourd'hui des millions de travailleurs vont voter pour l'union de la gauche, avec l'espoir de renverser l'UDR, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs. Par contre, qui sont extrêmement méfiants, surtout après l'expérience chilienne, extrêmement méfiants vis-à-vis du caractère réformiste et légaliste du programme commun et de l'union de la gauche, qui veulent affirmer cette méfiance dès le premier tour, même si au second tour ils apporteront leur suffrage à François Mitterrand. Par conséquent, nous pensons qu'il est extrêmement important que cette force de défiance vis-à-vis de l'union de la gauche ait aujourd'hui à pouvoir se regrouper derrière le nom de Charles Piaget de façon à montrer à François Mitterrand que tout ne sera pas permis et que notamment, il y a aujourd'hui en France une force extrêmement importante qui sera prête, même en cas de victoire de l'union de la gauche, à ne pas tolérer le pouvoir de la bourgeoisie qui restera en place. C'est ça que nous voulons développer pendant la campagne présidentielle. C'est ça que Charles Piaget pourra développer avec beaucoup plus de force que nous s'il est le candidat unique des révolutionnaires. Si par malheur, ceci n'est pas possible, malgré la mobilisation de masse qui va s'opérer derrière son nom cette semaine, alors nous serons amenés à garder notre candidature.
Alors, parlons de cette époque d'après 68, parce qu'à travers tout ton bouquin, il y a une chose qui te hante, c'est-à-dire pourvu que je n'écrase pas les générations qui viennent. Hein. Surtout ne pas désespérer ceux qui arrivent. Il y a cette hantise quand même, cette courtoisie au moins.
Non, je pense que le terme de courtoisie, dans ce cas-là, c'est une courtoisie réfléchie et politique. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, mais il y a une énigme en France, c'est la difficulté, alors qu'il y a eu des luttes sociales très importantes en 1995, en 2003, comparé aux pays voisins, à l'Italie avec les grands mouvements autonomes, en Catalogne ou en Espagne avec le mouvement anti-guerre, en Angleterre, en France, il y a une difficulté particulière, semble-t-il, d'émergence d'une génération politique. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se mouillent, etc. Mais c'est pas massif. Et je me demande si l'omniprésence de cette génération 68arde qui occupe aussi bien les postes de l'appareil d'État que les directions des partis, etc., a pas finalement un effet d'intimidation et d'inhibition. C'est pour ça que je dis, pour la candidature de Besancenot, c'est aussi une manière de dire, il y a autre chose. Nous, on n'est pas assez vieux pour dire on passe le témoin et on se retire. Mais bon, il faut que cette génération qui entre en action dans un univers... Parce que c'était ça un peu le défi de mon bouquin, de savoir si des jeunes pouvaient le lire... y trouver un intérêt sans qu'on passe pour des vrais cinglés ou des loufoques. Parce que, pour reprendre ce symbole génération Besancenot, son horizon de pensée et de formation, c'est l'insurrection zapatiste, c'est le mouvement altermondialiste, etc. Mais alors, nous, on avait le sentiment d'être nés avec la révolution d'octobre, par procuration. On était encore... dans cette séquence-là.
Il y avait la guerre d'Espagne, il y avait... et puis la résistance, c'était des repères.
Ce que les historiens appellent d'ailleurs le court XXe siècle, je crois que la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et ce qui s'en est suivi, dont la guerre d'Espagne, il y a un univers politique et de pensée qui était miné et rongé de l'intérieur depuis longtemps, mais qui s'est carrément délabré ou décomposé à la fin des années 80. C'est pas uniquement un problème d'âge, c'est qu'il y a une sorte de fracture culturelle de vision du monde. Or, en même temps, et sans se faire mousser, on a sûrement fait plein de bêtises, mais il y a aussi une expérience. J'insiste beaucoup, je crois que je la reprends trois fois, la formule de Deleuze, on recommence toujours par le milieu, ce qui est le contraire de la table rase. On recommence par le milieu. Donc, que la page se tourne, c'est très bien, à condition de ne pas effacer les pages précédentes.
Sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tout se met la corde au cou. Dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine, ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui, dans le fond, a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile, désobéissance civile.
Ça sera jamais pareil, tu l'as pas fini. Ça sera jamais pareil, tu l'as pas fini. Ça sera jamais pareil, tu l'as pas fini. Ça sera jamais pareil.
C'est une résistance contre un système.
système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
La place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
Il y a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
L'histoire nous mord la nuque. On a tous répété cette phrase-là, et j'ai trouvé l'auteur, c'est toi. Tu as inventé cette formule. L'histoire nous mord la nuque.
Je savais pas qu'elle était parvenue jusqu'à toi. Ça a résumé et symbolisé. Parfois, d'ailleurs, avec engouement, c'était presque devenu une maxime qui résumait notre impatience de 68 et de l'immédiat après 68. Et on croyait... de bonne foi, dur comme fer, qu'on allait connaître la révolution en Europe dans 5 ans, dans 7 ans, 8 ans ou plus tard. Encore, ça nous paraissait lointain. Donc, l'idée d'être pressé, d'avoir le souffle...
En 68, tu as 22 ans.
J'ai 22 ans, oui. D'avoir le souffle de l'histoire sur la nuque, c'était le sentiment. Et c'est une formule, évidemment, qui a servi aussi de maxime à ce qu'il faut bien appeler, après coup... notre gauchisme pressé, qui est plus qu'une impatience, une fébrilité, qui a usé d'ailleurs beaucoup d'énergie, parce qu'on était 24 heures sur 24 sur le pont, à multiplier les initiatives. Et bon, il a fallu du temps pour prendre la mesure des rythmes plus contrastés de l'histoire, etc.
Alors dans les années après 68, vous créez la LCR.
Oui, on a été interdit donc en 68, dissous par décret du ministère de l'Intérieur. Bon, évidemment, le climat n'était pas celui d'une dictature franquiste et autres, donc les interdictions pouvaient gêner, elles n'empêchaient pas de se reconstituer, ça ne correspondait pas au rapport de force à l'époque, etc. Donc on a créé la Ligue communiste en 69, dans un congrès clandestin quand même à Mannheim, en Allemagne. Et la Ligue communiste, là, on peut dire, est devenue une organisation, au moins dans sa majorité. Évidemment, il n'y a jamais unanimité là-dessus. Mais une des grandes questions de ce congrès de fondation, c'était notre affiliation à la 4e internationale, dont on ne connaissait pas très bien, par ailleurs, enfin, en tout cas, pour ceux qui y étaient déjà, oui, mais la réalité, mais par une démarche logique. C'était le capitalisme est une réalité internationale, et pas seulement dans la phase contemporaine de mondialisation. La solidarité n'est pas simplement une solidarité charitable avec le Vietnam. Si le capital est international, il faut une internationale. Il y en a une, elle n'est pas extraordinaire, elle est toute petite et toute modeste. Mais justement, là aussi, on avait le culot d'une génération pour qui l'histoire va vite. On se fait expulser du Parti communiste en 66, en 68, grève générale. Et après la grève générale, on va continuer. Donc, le raisonnement était, bon, il y a une internationale petite, mais honorable, elle n'a pas trahi, elle s'est opposée au stalinisme, etc. Donc, on y va, et puis c'est à nous d'en faire ce dont on a besoin, voilà.
Et là, il y a la tentation de la violence. Tu parles longuement... dans ton bouquin, oui. Tentation et tentative de la violence.
Tentation et tentative, parce que y a une certaine logique, hein, si ça rejoint l'histoire nous mord la nuque. Si on pense qu'on va vivre des situations révolutionnaires dans les années à venir, à moins de croire aux vertus invincibles de la spontanéité, on dit qu'il faut s'y préparer politiquement, mais y compris... on ne veut pas se faire ratatiner comme des lapins. Derrière, il y a beaucoup de choses derrière cette idée-là. Hein. Il peut y avoir l'idée du ghetto de Varsovie, de la résistance. On ne va pas se laisser écrabouiller comme ça. Alors, ça peut paraître aujourd'hui un peu démesuré et loufoque, mais là, il faut prendre les différentes séquences. Mais en 72 déjà, et a fortiori en 73... Nous, et pas seulement nous, c'est vrai aussi des grands partis qui en ont tiré d'autres conclusions, on est quand même un peu obsédé par l'expérience chilienne. Et donc, l'idée, c'est... on redoutait un scénario à la chilienne, dans l'hypothèse d'une victoire de la gauche qui devenait quand même envisageable aux prochaines élections législatives de 78. Et puis, sans faire le tour du monde, il y a quand même un contexte où l'Italie avait la stratégie de tension, et maintenant il est avéré avec l'histoire du Gladio et tout ça que c'était aussi une anticipation de la droite pour une part, et puis surtout, et dans mon cas peut-être doublement, le sentiment qui s'est vérifié que la dictature en Espagne vivait ces dernières années ou ces derniers mois. Alors, ce qui était illusoire, c'est que la chute du franquisme entraînerait une sorte de renaissance qu'on renouerait directement avec le mouvement héroïque de la guerre civile espagnole,
etc. Ça n'a pas été le cas.
Ça rejoint le thème de la lente impatience. Il a fallu apprendre à respirer au rythme un petit peu plus lent. Mais c'était ça derrière. Alors la violence là-dedans, on avait beaucoup en plus dans nos rangs chez les militants, ce que j'appelle une graine d'affiche rouge, c'est-à-dire des gens qui étaient des jeunes dont on peut imaginer que 20 ans plus tôt, ils auraient été embarqués dans cette histoire-là pour des tas de raisons. Il y avait une sorte de revival à leur manière. Hein. Marcel Reymann était un personnage emblématique, les fusillés de l'affiche rouge, etc. Bon, par ailleurs, sur la violence, je crois que l'image qui est restée souvent, et qui est d'ailleurs un peu trop cultivée à mon goût dans les bouquins sur les trotskistes, on a l'impression que tout ça... se résume à la grande manifestation du 21 juin 73, sur laquelle je regrette rien. C'était contre les néo-nazis qui faisaient une campagne déjà sur l'immigration. C'est plutôt honorable à l'époque, même de manière un peu musclée, d'avoir donné l'alerte. Bon, on a été interdit une deuxième fois. Donc, il y a un peu une saga a posteriori où les gens, plus ils s'éloignent d'ailleurs de l'engagement militant, plus ils glorifient ce qui est censé avoir été leur fait d'armes. Bon, il faut remettre ça à proportion. Or, quand on regarde, dans le cas de la Ligue en Italie, ça a été autrement sérieux, les histoires du P38, ou en Espagne, parce que contre une dictature, l'action armée était légitime. C'est vrai qu'après le 21 juin, donc en 73, qui coïncidait, là, c'est l'année du coup d'État au Chili, là, on se disait, oui, mais on ne peut pas continuer une escalade comme ça avec des manifs, des casques, des barres de fer et des cocktails Molotov. Le Chili, c'est autre chose, c'est plus sérieux. Donc, il faut préparer un appareil logistique. Le problème, c'est que préparer un appareil, ça pouvait être raisonnable, mais un appareil a sa propre logique. Les gens ne font pas de l'exercice pendant des années en attendant... une situation hypothétique, donc il y a une pression pour agir.
Alors, les années 80, pour toi, sont les années les plus sombres, les plus vides ?
Ah, sinistre. Sinistre. Bon, c'est sinistre à grande échelle, hein. C'est les années de la grande contre-réforme Reagan-Thatcher. Mais, sous une autre forme, je crois que les années Mitterrand ont aussi été terribles pour désorienter... casser les solidarités, casser les résistances, désarmer la vigilance. Pour ne prendre qu'un exemple, à l'époque, il était encore temps, pour s'opposer au phénomène type Front National, de construire une solidarité sans faille entre Français, étrangers, immigrés, etc. Or, quand Mauroy, qui n'est pas le pire de la nébuleuse social-démocrate, commence à parler de la grève de Citroën comme une grève islamique, en 82. Et oui, alors que jusque-là, on parlait des immigrés comme travailleurs, pas en fonction de leur religion ou de leur culture. C'est moins spectaculaire que les bulldozers du PC à Ivry, mais c'est une brèche. C'est une brèche. Sur cette question de la xénophobie ou du racisme, chaque pouce de terrain perdu, après, est très dur à reconquérir. La façon dont Mitterrand, Max Gallo, qui était porte-parole de l'Élysée à l'époque... en témoigne, a délibérément instrumentalisé le Front National par calcul électoral, hein. il n'y a pas de lien organique, pour mettre la droite en impossibilité de retour électoral. Bon, la façon dont s'est mis en place tout le vocabulaire moderniste, de la flexibilité. Encore une fois, vu les rapports de force en France, les réformes ou les contre-réformes n'ont pas été équivalentes à ce qui s'est passé en Angleterre ou aux États-Unis. Mais, oui, c'est ça. On a désarmé un mouvement ouvrier qui pouvait être sur ses gardes et résister beaucoup plus.
La chute du mur, comment tu prends ça ?
Champagne et Alka-Seltzer.
Champagne et Alka-Seltzer.
Oui. Champagne, parce que il était souhaitable que ce mur, en tant que symbole, et ce mur physique tombe. Pour quelqu'un qui combattait le stalinisme depuis mon âge conscient ou presque, c'était évidemment une victoire. J'hésite à employer le mot. Champagne, oui, parce que c'est la deuxième mort d'un cadavre, je dirais. Hein. Le système était pourri. RDA, comme le système soviétique avant. Pour moi, la contre-révolution en Union soviétique, elle a eu lieu dès la fin des années 30, etc. Mais ce cadavre qui n'en finit pas de mourir continuait finalement à décomposer l'atmosphère. Donc ça, Champagne. Et Alka-Seltzer, parce que finalement, le mur est tombé justement après la grande poussée de contre-réforme libérale, à une époque où ce qui pouvait y avoir de positif dans la tradition révolutionnaire, pas seulement d'ailleurs en Russie, mais même en Allemagne de l'Est, on ne peut pas oublier qu'une partie de ces gens-là ont été des combattants héroïques de l'antifascisme, etc., ou un personnage ambigu comme Marcus Wolf, qui fascine le carré. Bon, mais ce qui pouvait y avoir de part positive ou dynamique était épuisé, de sorte que même si on n'était pas responsable, nous, pour s'y être opposé de la politique du stalinisme, les gravats du mur nous sont aussi tombés sur la gueule. Et moi, je le percevais particulièrement sur les résultats très contradictoires en Amérique latine. En Amérique latine, on sentait aussitôt que la disparition de l'URSS était un soulagement et enlever une hypothèque, d'un côté, mais qu'en même temps, le fait que les pétroliers soviétiques arrivaient plus à Cuba le rapport de force internationale, on n'était pas encore à la croisade de George Bush, mais on sentait bien que les rapports de force, s'il était tombé le mur au profit de mouvements sociaux à l'offensive, comme dans les années 70, il y aurait eu que du champagne. Mais là, les effets étaient, dès la chute du mur, prévisiblement contradictoires.
Un de tes thèmes aussi, c'est le Marane.
Ben, le Marane, c'est... Oui, bon là, il y a une part de séduction. C'est que, donc, ce sont les Juifs convertis de force, mais qui continuaient, comme on disait au XVIe siècle, en Espagne ou au Portugal, à judaïser en secret. Alors, dans le Marane, il y a l'idée de la fidélité et de la patience. Hein. Les Maranes sont patients. Ils adoptent, sous la contrainte, une attitude de soumission de surface.
Mais ils sont dans le temps long.
Mais ils sont dans le temps long. Et alors, à l'époque où il était presque devenu obscène de se dire encore communiste ou encore marxiste, justement dans les années 80, qui était la grande déferlante, droit de l'homme, libéralisme, je me disais qu'il fallait aussi penser à la possibilité d'un communisme marane, qu'on parlerait peut-être avec d'autres mots, mais il fallait conserver ce noyau de fidélité, pas par piété d'ailleurs religieuse, mais parce qu'il avait encore un sens, et que ce sens finirait, c'est à nouveau le thème de la taupe, par refaire surface. Je ne dis pas que l'avenir est assuré, mais enfin, en tout cas, non, mais on n'est plus au creux du creux comme dans ces années 80.
Voilà, Daniel Ben Saïd en 2004. Alors, voilà, le parcours, son parcours, sa vision du monde, de la politique, et encore une fois, sa volonté affirmée, répétée, d'être un passeur des idées qui lui étaient chères et qui, contrairement à ce qui se dit ça et là, ne sont pas mortes. Un dernier document trouvé sur Internet, une soirée organisée par les comités NPA du 5e et 13e arrondissement de Paris, le 9 décembre 2008, où Ben Saïd parle à un public de jeunes, voire de très jeunes gens.
Ce qui est spectaculaire au niveau du vocabulaire, c'est que plus personne ou presque aujourd'hui se revendique du libéralisme. Le mot est presque devenu synonyme d'un capitalisme excessif, des abus, voire d'ailleurs des malhonnêtetés. En gros, un terme presque pornographique qui a disparu soudainement du vocabulaire. Comme s'il y avait effectivement un capitalisme honnête qui devrait prendre ses distances par rapport à cette période maudite qui a été la période du libéralisme décomplexé dont on sort. Le climat a changé brutalement sur ce plan-là et on découvre l'ampleur d'une crise alors qu'on nous vantait il y a quelques mois encore les performances du capitalisme financier britannique qui était un modèle ou le dynamisme de l'économie espagnole. On se retrouve tout d'un coup devant un champ de ruines. Alors l'échéance a été retardée. Elle a été retardée de différentes manières. C'est clair qu'on ne peut pas, pourtant c'était la demande officielle, indéfiniment exiger 15% d'intérêt, de retour sur investissement, c'est-à-dire d'intérêt pour les actionnaires avec une croissance de 3 à 5%. J'emploie souvent la formule, mais c'est beaucoup plus énigmatique et stupéfiant encore que la multiplication biblique des pains. Bon, on peut dire que les banquiers ont été irresponsables ou incompétents. Ils n'ont pas été seulement irresponsables et incompétents, ils ont été littéralement criminels. Parce que c'est de manière absolument consciente, sciemment délibérée, qu'on a incité des gens dont on savait pertinemment que faute d'emploi ou avec des revenus à la limite de la survie n'étaient pas solvables, on les a incités à s'endetter. Et c'était tellement conscient et délibéré que les mêmes qui proposaient des prêts hypothécaires à des taux bas mais variables, sachant qu'ils allaient monter, savaient que leurs créances, donc le prêt était pourri, et donc les ont cachés dans ce qu'on appelait la titrisation, dans des paquets d'actions, de sorte qu'ils ne soient pas traçables, comme on dirait en écologie, pas décelables, ce qui en termes vulgaires revient à passer le mistigri, la créance pourrie au voisin, et on ne sait pas où elle va finir par atterrir. Mais tout le monde savait que ça finirait par exploser. En Espagne, en un mois, et pour une population de seulement 40 millions d'habitants, c'est 170 000 emplois perdus en un mois. Tellement l'économie espagnole, qu'on nous citait à l'exemple, a vécu sur la spéculation immobilière et sur l'endettement de familles pauvres qui vont se retrouver, comme aux États-Unis, à la rue et sans toit. Ça, c'est socialement criminel. C'est des social killers. Ces gens-là devraient être, non pas aujourd'hui renfloués, mais devant des tribunaux. Le système est devenu fou. C'est le discours hallucinant de Sarkozy à Toulon le 25 septembre, en disant « on a laissé les marchés dérégulés, on a laissé investir de façon irresponsable, on a laissé prêter ». Mais un « on » anonyme, sans visage. Même son de cloche et même « on » anonyme chez Dominique Strauss-Kahn. Parti, on s'en souvient, gauchir le FMI. Bon, bonne chance. Bon. Mais le problème, c'est que ce n'est pas « on », ce n'est pas le système qui est devenu. Le système, ce n'est pas une poupée automate. Pour en arriver là, il a fallu 25 ans de décisions politiques, de mesures législatives prises avec constance par les gouvernements de droite et de gauche successifs. La déréglementation boursière en France, c'est 1985, sous le ministère des Finances de Pierre Bérégovoy, gouvernement socialiste. La dérégulation financière européenne, qui devait intervenir en 1990, a été anticipée d'un an en France, sous le ministère des Finances Fabius, dans le gouvernement de gauche, dès 1989. Les privatisations sont ce qui a ouvert des entreprises entières aux fonds spéculatifs, c'est-à-dire aux fonds de pension des États-Unis, qui peuvent se retirer, fermer boutiques, comme on le voit quotidiennement aujourd'hui en France. Enfin, la dérégulation financière, c'est le credo même des traités européens, du traité de Maastricht au traité constitutionnel rejeté par le non de 2005, mais passé, comme le dit cyniquement Giscard d'Estaing, sans modification substantielle, à travers le traité de Lisbonne, évidemment que Sarkozy a fait voter par le congrès spécial de Versailles, mais sans opposition des socialistes qui auraient pu obliger, s'ils avaient voté contre, à un nouveau référendum. Donc c'est une volonté politique, et Sarkozy, trois mois encore, avant le déclenchement de la crise, proposait de développer en France le crédit hypothécaire, c'est-à-dire l'équivalent des subprimes des États-Unis ou de l'Espagne, qui ont amené à la catastrophe immobilière et financière que l'on connaît. Comment se fait-il, alors qu'on a gagné en capacité, en productivité pendant 50 ans, on a pu diviser par 10, par 20, par 50 le temps nécessaire à fabriquer une horloge, une voiture, une table. Comment se fait-il qu'au lieu de libérer du temps libre pour la créativité, pour le repos, pour la participation civique, ça produise aujourd'hui des millions et des millions de chômeurs, d'exclus, de précaires, y compris dans les pays les plus riches. Regardez ce qu'annoncent les Restaurants du Cœur pour cette année. L'explosion depuis qu'ils ont été créés, on est passé de 8 millions à l'an dernier 67 millions de repas servis. Et pas seulement pour les plus pauvres, de plus en plus pour des étudiants, pour des travailleurs qui n'arrivent pas à se nourrir bien qu'en travaillant. Alors on dit aujourd'hui, mais enfin regardez, les travaux sont complexes, ça n'a plus de sens, la théorie de Marx, comme quoi finalement ce qui fait la valeur, c'est le temps de travail nécessaire à sa production. C'est... Non, regardez comment on chronomètre les gestes, comment à Peugeot Sochaux, comment ils demandent le tableau de menstruation des femmes pour organiser les horaires pour qu'il y ait le moins de temps de pause possible, etc. Ou supprimer les chaises pour que les gens ne puissent pas s'asseoir entre deux gestes de travail. Non, c'est la chasse au temps mort au sens aussi sauvage qu'au 19e siècle à certains égards. Quelques critères de progrès chez Marx, je crois qu'ils sont assez bons, qu'on devrait réfléchir. C'est premièrement, réduire au maximum le temps de travail contraint. Le premier critère de progrès, c'est qu'on est à travailler de moins en moins pour reproduire ce dont la société a besoin. Les gains de productivité le permettent. Le paradoxe, c'est qu'au lieu de faire du temps libre, on fait de la misère. Le deuxième critère qu'on trouve chez Marx, c'est l'idée qu'un des critères de progrès, c'est le type de rapport entre les gens, entre les hommes et les femmes. Pour une raison qui était fondamentale, c'est que le rapport entre les sexes, c'est la première expérience qu'on fait de la différence. Et que dans toute société où les femmes seraient opprimées et dominées, eh bien l'étranger, l'immigré, le différent sera lui aussi en insécurité et en menace de domination et d'oppression. Le capitalisme est par définition amoral ou immoral. Vous aurez le choix entre les deux termes. Ce système-là conduit l'humanité à sa perte. Alors, on s'attendrait que, puisque les banques sont un bien public, on dit, ben alors, autant qu'elles soient dans le domaine public, gérées publiquement, sous contrôle du public, etc., au moins, on pourra agir dessus pour contrôler où vont les investissements, où passe la recherche, renflouer l'automobile, mais à quelles conditions, pour produire quelles automobiles, associer à quel plan de réorganisation des transports pour ne pas repartir dans un cycle tout automobile, de croissance urbaine, de rallongement des temps de transport, etc., on pourrait avoir un droit de regard par rapport à ça. Tandis que là, c'est l'État assurance tout risque de l'industrie automobile, comme des banques, comme du bâtiment Bouygues, etc., sans droit de regard, sans contrepartie, ce qui fait que pour nous, ça remet à l'ordre du jour le thème qui était presque devenu une indécence depuis quelques années dans la vague de privatisation, qui est de dire non, c'est le service public, la propriété publique, le domaine public, le bien commun. Et non pas comme avant, sous le seul contrôle de l'État, mais sous contrôle des travailleurs et des usagers.
Une chose qu'on a mis de côté, finalement, c'est l'essentiel dans ton... Peut-être pas dans ton livre, mais en tous les cas dans ta vie, c'est le vélo, parce que avant tout, t'es un cycliste.
Je suis un cycliste d'abord parce que je suis fâché avec la mécanique, que j'aime pas les voitures, etc. Ni les moteurs, même.
Tu décris des itinéraires bien précis. Ah, une vraie petite carte Michelin avec les côtes, les descentes, les endroits.
Bah oui,
des petits itinéraires bien précis.
C'est un plaisir que j'aimerais faire partager d'abord. Et puis, le vélo, mais ça vaudrait aussi pour la marche, j'imagine, ou pour la course à pied. C'est aussi un moment propice à penser. Il y a une sorte de liberté sur un vélo où, d'un côté, on a le paysage, on a la tête qui travaille, et les idées viennent en pédalant et en marchant. Là aussi, elles ne tombent pas du ciel. Donc, pédalons, hein, et. Je crois que ça produit effectivement pas mal.
Oui, il y a une métaphore, hein, c'est que si on pédale pas, on tombe du vélo.
Si on pédale pas, on tombe. Donc, il faut pas arrêter de pédaler.
C'est ton message, finalement. C'est 500 pages, ça aboutit à ça.
Ah, c'est à ça. Oui, pédalons, pédalons encore.
Voilà, c'était un hommage à Daniel Ben Saïd qui a disparu. Hier, les obsèques se dérouleront dans l'intimité, nous dit-on, mais le NPA organisera une soirée d'hommage militant le samedi 23 janvier à Paris et le lieu sera indiqué ultérieurement. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse, j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org, où nous indiquons les autres émissions consacrée à Daniel Ben Saïd. À la technique aujourd'hui, Aveline Carmois et Yann Malichewski. C'est Koyen Guyane et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Catherine Pinto, quant à elle, attend vos messages au répondeur de la Basse JSP au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Voilà, demain on continue la balade en Inde, balade si on veut. On retournera au Chattisgarh à la rencontre de la guérilla Naxalite, comme vous voulez, et on aura des nouvelles de nos amis qui sont en prise avec les pouvoirs locaux, les escadrons de la mort et des conditions très difficiles, très peu connues, hein, cette histoire hors de l'Inde, qui pourtant considère, à travers au moins le discours de son premier ministre, que c'est là un des facteurs d'insécurité majeure dans cet énorme pays.
Vous voulez devenir plus riche que riche? Ah bon? Alors vendredi, Euromillion met en jeu près de 58 millions d'euros. 58 millions! Heureusement, ma petite machine les compte à ma place. Ah! Il doit y avoir un petit million qui bloque là.
Aïe. Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Il n'y a que Euromillion pour gagner autant de millions.
FTJ.
16h, 15 secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la Basse JSP. J'y suis les infos. Angélique Bouin, salut.
Haïti se réveille sonné, compte ses morts au lendemain du terrible séisme qui a secoué la région de la capitale, Port-au-Prince. Il n'y a toujours pas d'électricité ni de ligne téléphonique et l'organisation des secours peine vraiment à se mettre en place. Une course contre la montre s'est engagée pour tenter de trouver des survivants dans les décombres des très nombreux bâtiments qui se sont effondrés. Une équipe française de sauveteurs s'apprête à décoller des Antilles. La France, le Canada, les États-Unis, la Chine envoient des spécialistes de la sécurité civile et des chiens pour participer aux recherches. On est toujours sans aucune nouvelle d'une centaine d'employés de l'ONU qui travaillaient au moment du tremblement de terre dans le bâtiment qui abritait le siège de l'organisation, bâtiment qui s'est totalement effondré. 5 corps ont été retrouvés dans les gravats, mais aussi quelques survivants. Sophie Becherel a joint à New York le porte-parole de l'ONU, Eric Falt, extrêmement inquiet pour le personnel de l'organisation.
Nous avons près de 3000 personnes, y compris les troupes de la MINUSTA, les membres de la police de la MINUSTA et le personnel civil. Nous avons de graves inquiétudes sur le sort, notamment du représentant spécial, Eddie Anabi, ainsi que son adjoint, Luis Da Costa. Mais nous n'avons pas d'informations sur l'état actuel dans lequel ils se trouvent. Nous savons qu'ils étaient dans le bâtiment au moment où le tremblement de terre s'est produit. Ils étaient sans doute en réunion avec une délégation de haut niveau chinoise qui était de passage à Port-au-Prince. Nous avons bien sûr de graves inquiétudes pour eux, mais aussi pour toute la population sur place. Donc, à l'heure actuelle, c'est sur peut-être, on pourrait dire, deux fronts que nous opérons. Tout le monde vraiment est en train de s'organiser. Il s'agit d'une véritable catastrophe avec de multiples dimensions. Donc, dans un premier temps, mieux comprendre et bien sûr, organiser les secours.
Lors d'un point de presse, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a fait part de son désarroi. Il a estimé qu'il s'agit d'une tragédie pour Haïti et les Nations Unies. L'ONU qui débloque une aide d'urgence de 10 millions d'euros qui va lancer un appel aux dons international. Seule nouvelle rassurante, en ce milieu d'après-midi, l'aéroport de Port-au-Prince est opérationnel. Les avions qui transportent de l'aide humanitaire vont donc pouvoir s'y poser. Je vous rappelle enfin que Radio France s'associe à la Fondation de France pour récolter des dons. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet franceinter.com. À Perpignan, l'étudiant chinois qui a poignardé et tué ce matin une secrétaire dans l'enceinte de la bibliothèque de l'université a été interpellé et placé en garde à vue. Trois autres personnes qui ont voulu s'interposer sont blessées. Le jeune homme souffrirait de troubles psychologiques. Un nouveau soldat français mort en Afghanistan. Il s'agit d'un sergent du 517e régiment du train. Deux de ses camarades sont également blessés. Leur véhicule blindé a sauté sur un engin explosif alors qu'il circulait sur une route qui relie Bagram à Nijrab. Il n'y a plus aucun département placé en vigilance orange à la neige en France. L'heure est donc au redoux. La circulation s'améliore partout dans le nord et l'ouest, mais pas dans le ciel. Attention si vous voyagez. Toujours beaucoup de perturbations dans les aéroports français en raison notamment de la grève des contrôleurs aériens. Grève qui se poursuit demain.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous enregistrons dans les Deux-Sèvres, aujourd'hui à Lezay, à la salle des fêtes à 18h30 et demain à Saint-Mexant-l'École, à l'espace Agapit, également à 18h30. À très bientôt.
France Inter et le Théâtre de la Ville de Paris présentent, du 19 au 24 janvier, la reprise exceptionnelle de Casimir et Caroline d'Odon von Horvath, mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Avec Élodie Bouchèze, Hugues Kester, Alain Libolt et 17 comédiens de l'ensemble artistique du Théâtre de la Ville. Retrouvez-les dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
Il est 16h04, c'est le moment pour nous de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Tout le monde est affecté, je le suppose, par la catastrophe d'Haïti. Il se trouve que hier soir, tard, je devisais avec Manuel Césaire, musicien et directeur culturel à la Martinique, neveu du regretté Aimé Césaire, le grand poète et maire de Fort-de-France très longtemps. Et puis voilà, je lui disais que j'aimais beaucoup son disque. Il a publié une rhapsodie nègre et des fantaisies martiniquaises avec l'orchestre symphonique de Martinique. Et il y a à la fin de ce disque un passage très touchant, je le disais encore à 1h30 du matin à Manuel hier, des profondices. Et je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait ce tremblement de terre absolument épouvantable. Donc j'ai envie de dédier, puisque ma famille est originaire de la Martinique et que d'autre part un avion part de la Martinique là, pour aider les habitants d'Haïti ainsi que de la métropole, eh bien j'ai envie de dédier ce des profondices de Manuel Césaire qui est vraiment bouleversant à mon sens. Le texte, vous le connaissez peut-être, des profondeurs je crie vers toi Seigneur, Seigneur écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.